Salut à vous, chers auditeurs. Bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock'n'Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. Au programme, la 26e journée de championnat de Ligue 1 UBEAT avec la rencontre entre Saint-Étienne et Reims. Donc, cette 26e journée de championnat, ça avait lieu samedi 13h. Résultat final, un but partout. On va donc décortiquer cette rencontre-là. Avec mes deux compères, déjà un vêtu de vert et blanc, Damier devant son clavier, Olivier. Salut à toi.
Salut Marco, bien sûr, comme toujours. Salut Eric.
Et notre reporter sur place collé sur le macadam entre Tribune Foran et Snella, qui nous dévoile ses états d'âme, Eric.
Salut à toutes et à tous.
Voilà, donc au programme, je disais, cette 26e journée, ce Saint-Étienne-Reims, on va passer des morceaux musicaux, on va même parler d'une page Haute-Loire, puisqu'il y a eu un match entre Le Puy et Chamalières pour le compte de la Coupe de France, on reviendra dessus rapidement, et puis on clôturera l'émission avec les coups de tête et les coups de cœur. Bonne émission à vous!
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end.
Alors, le match de samedi 13h. Et oui, samedi 13h, c'est vraiment pas l'horaire idéal pour jouer au foot, tout simplement. Hein. C'est quand même assez compliqué, et même pour les spectateurs. Enfin, notre seigneur Puel avait aligné Anthony Modeste en pointe, donc titularisé pour la première fois. À côté de lui, Kazri et Bouanga. Au milieu de terrain, Neyou, Gourna et Camara. Et pour la défense, Troco, Cissé, Moukoudi, Debuchy et Moulin. Alors, il a fallu peu de temps pour voir la première intrusion verte dans le camp rémois, puisqu'à la deuxième minute de jeu, c'est lancé en profondeur, c'est Modeste qui prend trop son temps, et il est repris au dernier moment. Bien dommage. 28e minute de jeu, un coup franc de Bonga contraint Rajkovic à un arrêt en deux temps. Une minute plus tard, c'est sur le côté gauche, Conan qui déborde Debuchy et qui centre sur Mboukou qui tente un ciseau, mais le geste parfait ne surprend pas Moulin. 52e minute de jeu, Fouquet choisit le centre-tir à 18 mètres, le portier vert capte en deux temps. 70e minute de jeu, un centre de Camara parvient à Debuchy dont la frappe frôle le poteau. 70e minute, le coup dur puisque sur un corner, Touré place une tête décroisée au premier poteau qui lobe Moulin, un but à zéro pour les Champenois. Deux minutes plus tard, Reims est tout près de faire le break sur une frappe croisée de Dia qui frôle le poteau droit de Moulin. 87e minute de jeu sur un centre piqué de Nordin en direction d'Aouchi chez Bouanga. Seul aux 6 mètres, la tête de l'ancien Parisien fuit le cadre. 89e minute de jeu, une volée de Moukoudi est contrée sur la ligne de but mais revient sur Abi qui fait le bon geste pour mettre la balle au fond. Égalisation, un but partout. Et puis, 91e minute de jeu, Bouanga mange la feuille de match en manquant le cadre à 3 mètres du but. Résultat final, un but partout entre Saint-Étienne et Reims. Reims qui n'a pas gagné à Geoffroy Guichard depuis 1959. Voilà.
Merci Marco pour ce compte-rendu. Un partout donc entre les Verts et les Rémois. Il a fallu attendre, comme tu viens de le dire, les dernières minutes pour voir la partie s'animer un peu. Les Verts qui étaient menés, qui sont parvenus à égaliser et auraient même pu l'emporter sans ce raté monumental de Bouanga. Le résultat final n'est pas celui espéré, mais au vu de la physionomie du match, est-ce qu'il vous semble logique? Je vais d'abord poser la question à Olivier.
Ouais, c'est logique, oui. Je dirais oui, quand même. Au final, les Rémois, ils n'ont pas montré non plus grand-chose. Ils sont surtout venus défendre et attendre un peu les Stéphanois. Les Stéphanois n'avaient pas forcément envie de se livrer, donc ça a donné un match, tu l'as dit, Marco, pas très vivant. Au final, deux buts sur deux coups de pied arrêtés. Donc, quand ça se passe comme ça, on peut dire que ça s'est joué un petit peu sur un coup de dé. Hein. Et malgré tout... Saint-Étienne, qui a un peu plus d'eau au mur que les Rémois, bah, avait peut-être l'intention, un peu plus l'intention de l'emporter. Et donc, à la fin, ouais, c'est vrai que se rater, c'est dommage. Ça fait deux fois, donc c'est vraiment rageant autour de Bouanga. qui la semaine dernière avait marqué. On avait espéré. Alors je dois dire que je me suis lourdement trompé sur son cas, parce que j'avais dit que ça serait peut-être un déclic pour lui. Et ça n'a pas vraiment été le cas, même s'il y a eu un léger mieux pour lui. On y reviendra, je pense.
Toi, Marco, résultat logique?
Oui, tout à fait logique pour moi. Et c'est presque inespéré d'égaliser, puisque ça fut quand même très brouillon côté stéphanois, et voire décevant une fois de plus à domicile, alors qu'on a été dominateur au cours de la première mi-temps, et on va dire les 30 premières minutes, on montrait des choses plus ou moins intéressantes, mais on a toujours des di difficultés à cadrer, à être offensif, à se créer des occasions, et c'est toujours très compliqué côté Saint-Étienne. Et en plus, on a la maladresse. Donc, j'ai trouvé que Reims, à 5 minutes de la fin, bon, bah voilà, et je dis, bon, bah, ils vont l'emporter. Et puis, bon, finalement, on a égalisé. Bon, bah voilà, au lieu de prendre 0 point, on prend 1 point. C'est pas plus mal, mais une fois de plus, on ne méritait pas de l'emporter, même si l'occasion de Banga aurait fait du bien à cette équipe stéphanoise.
C'est sûr. Alors, la semaine dernière, dans l'émission, on a évoqué une ASS aux deux visages. On a vu à Sochaux une équipe ultra dominatrice se faire éliminer par une formation de milieu de tableau de Ligue 2, faute d'avoir pu faire trembler les filets en tirant plus de 20 fois au but. Et quelques jours plus tard, une équipe très forte collectivement l'a emportée à Rennes, où elle gagne rarement. Et ce week-end, on attendait une confirmation, une victoire à domicile qui nous aurait permis de dépasser au classement notre adversaire et nous donner un peu d'air. J'avais d'ailleurs pointé du doigt cette inconstance. Est-ce que vous voyez une explication à ces résultats en dents de scie?
C'est toujours la même chose pour moi, hein. Je l'ai dit la semaine précédente. C'est face à une équipe qui va jouer, on a plus de facilité à contrer et à aller de l'avant. Et face à une équipe qui est plus timorée comme Reims samedi, ben c'est compliqué de trouver la faille, de trouver des solutions. Et on attend toujours une individualité, quelqu'un qui fasse la différence. On l'a attendu trop longtemps et ça a pas marché quoi, ça a jamais fonctionné. Alors j'ai bien insisté tout à l'heure pour le résumé du match sur Modeste qui au bout de 2 minutes de jeu bouffe un peu la feuille parce qu'il est une super balle de Casri qui le lance. Je crois que c'est Casri hein, qui le lance dessus, je suis plus
C'est
sûr.
non, c'est Debussy.
C'est Debuchy.
Ouais.
Debuchy qui trouve une super passe en profondeur et je dis tiens bah voilà on va le voir à l'œuvre, il va pouvoir au moins ne frapper au but. Il n'a même pas pu tirer au but, il s'est fait rejoindre par les défenseurs rémois. Je dis tiens, ça aurait pu décanter ce match et puis ben non, loin de là et on assiste toujours à cette pénibilité du jeu offensif stéphanois et avec toujours de la maladresse dans les transmissions et dans les transmissions, et ouais, c'est trop brouillon, quoi. C'est trop brouillon. C'est dommage parce que Reims, on a le même nombre de points. C'était l'occasion pour passer devant. Mais on n'est pas meilleur que Reims. Hein. Loin de là. Hein.
Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours autant de déchets techniques, j'ai trouvé, hein, dans l'avant-dernier, dernier geste, et pas que. Puis aussi un manque de spontanéité dans les 30 derniers mètres, et puis aussi un problème de communication. Rappelez-vous, contre Rennes à domicile, au match aller, on avait pris un but comme ça, et puis là, on prend un but sur corner, et le corner est concédé parce que Moulin et Mukudi ne se parlent pas. Hein. Donc, petite cause, grande conséquence, et les Verts, encore une fois, ont pris un but sur coup de pied arrêté. Et toi, Olivier, qu'est-ce que tu en penses de ces résultats inconstants?
Est-ce qu'il y a une explication? Oui, bah, c'est juste qu'on n'a pas assez de marge contre une équipe qui défend, qui reste bien positionnée, qui reste en place, on va dire. Ben, on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas la marge nécessaire ou le style de jeu nécessaire pour faire la différence. En fait, nous, on a la seule marge qu'on a par rapport aux autres équipes, c'est justement dans le jeu de transition parce qu'on a des joueurs qui vont vite. Bon, Modeste, c'est pas trop le cas, mais je pense à Bonga, Nordin, à Mouma, à même Casri. Ils ont un peu ça. Alors, Casri, il pensait qu'il allait plus nous apporter là, sur cette rencontre, mais si j'ai bien compris, il était blessé. On y reviendra.
Ouais, on
Mais c'est vrai que
verra.
c'est des joueurs qui peuvent nous permettre dans les petits espaces. Et on voit bien que Abi aussi, c'est pas trop son style de jeu d'être comme ça, de devoir être hyper technique, hyper fin dans les transmissions. On a un jeu de transition, comme on dit maintenant. C'est-à-dire, dès qu'on récupère, on se projette hyper vite en attaque pour aller faire la différence. Et ça, ça peut marcher quand on est à Rennes, quand on joue contre Rennes, contre une équipe qui est obligée de faire un peu de jeu, hein. Ils étaient en Ligue des Champions, donc ils vont pas rester derrière face à Saint-Étienne. Donc contre une équipe, contre Rennes, c'est facile de jouer et on l'a vu et on l'a remporté. Par contre, à Sochaux, bon, c'est super difficile. À la maison contre Reims, c'est super difficile parce que Reims, c'est une équipe qui reste vraiment en place. Et on verra, mais j'ai peur que Lorient, il reste aussi. C'est plus une équipe joueuse comme ça a pu l'être par le passé. J'ai peur qu'il reste en place, mais ça sera peut-être plus facile parce que devant chez eux, ils vont peut-être quand même être obligés de l'emporter. On verra, on en parlera tout à l'heure. Mais ouais, l'explication, c'est ça. C'est qu'on n'a pas le style de jeu encore pour faire la différence face à une équipe regroupée, comme peut l'être, par exemple, à toute proportion gardée, le Paris Saint-Germain, quand ils vont jouer, par exemple, ou Lille, quand ils vont jouer à Lorient.
Ok. Bon, on va revenir. Ouais, Marco.
Ouais, je vais corriger Olivier. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire pour la construction. Il me dit on va essayer d'aller vite de l'avant. On essaie de se projeter rapidement vers l'avant. Oui, en contre-attaque, mais sinon c'est toujours des passes en retrait pour construire le jeu petit à petit, palier par palier. Et la patte Puel, c'est ça. C'est que à chaque fois et quand Neyou a la balle, même dans le camp adverse. Au lieu de se retourner rapidement avec un petit contrôle orienté, et ben il revient vers l'arrière sans arrêt, sans arrêt. Camara fait également c'est le même constat, quoi. Et je trouve que justement, ça manque de dynamique, ça manque de mouvement, de rapidité dans les passes, dans les transmissions. Et à mon avis, c'est là que le bât blesse à domicile. Et je suis pas d'accord quand tu dis, Olivier, qu'ils vont vite vers l'avant, non?
Ça dépend où est-ce que tu récupères la balle. Parce que si tu passes à toi, tu as une équipe hyper regroupée comme c'était le cas et que ils sont tous déjà positionnés, c'est sûr que ça ne sert à rien de lancer, même de dribbler un joueur. C'est plus ça. Alors que contre Rennes, quand tu récupères, tu as de la place dans le dos de la défense. C'est ce que je voulais dire.
Oui, en contre-attaque. Oui.
Ouais. Voilà, non, mais plus que ça, c'est-à-dire que, en fait, ça dépend. Je pense que Reims, par exemple, leurs défenseurs centraux n'ont jamais dépassé le milieu de terrain, sauf pour aller sauf sur les corners, tu vois. Alors que Rennes, eux, ils l'ont dépassé tout le match, le milieu de terrain. Mmh. C'est ces lignes-là, quoi, qui font.
Ouais. Après, on a été assez improductif. On a récupéré des ballons, mais on n'a pas su les exploiter correctement. Enfin, bon, on va revenir sur les choix opérés par Claude Puel. Mais avant, Marco, un premier titre musical?
Oui, les Rémois psychédéliques. Black Bones avec le titre Desco. Pop psychédélique de Black Bones, le groupe Rémois avec le titre Desco. Et oui, c'est signé les ex-Bewitch Ends. Si vous êtes fidèle à notre émission Coup de tête, il faut savoir qu'il y a plusieurs années, je passais souvent ce groupe Bewitch Ends lorsqu'on affrontait Reims. Donc, retour sur la page Football Ligue 1 avec cette 26e journée et ce résultat nul entre Saint-Étienne et Reims, un but partout. Tout.
Qu'est-ce que tu veux, toi, hein? Tu veux un coup de pelle?
Alors, pourquoi ce coup de puelle? Parce que notre entraîneur a opté au départ pour un dispositif en 4-3-3, puis au bout d'une demi-heure a changé, constatant que son équipe était en difficulté face au bloc rémois. Il a fait redescendre d'un cran Neyou et fait passer Camara à droite. On a retrouvé un système en 4-4-2 dans lequel on est, je trouve, plus à l'aise. Et ce système est resté le même après la pause, avec les deux changements qui sont survenus, les sorties de Gourna et de Kazri apparemment touchés, remplacés par Aouchiche et Nordin qui ont occupé les couloirs. Alors, d'après vous, dans quel système de jeu les Verts sont les plus à l'aise?
Moi, je vais te répondre. Moi, le coup de puelle, c'est la sortie de Gourna. Hein. J'ai vraiment pas compris, parce que s'il y avait un joueur qui était au-dessus du lot au cours des 45 premières minutes, c'était Gourna. Et bizarrement, il le sort. Moi, je pensais qu'il était blessé et j'ai appris après la rencontre que c'était un choix de Puel de le sortir.
Oui.
Je trouve ça incompréhensible parce que c'est le seul qui gagnait ses duels en milieu de terrain et qui faisait la différence et on était plus dominateur. Et suite à sa sortie, bah, ça a changé la donne. Effectivement, il y a eu une autre stratégie, une autre tactique. Qui n'a pas été payante. Donc, moi, le coup de puelle, je le mets simplement sur le changement de Gourna.
D'accord. C'était quoi ta question?
Bah, dans quel système de jeu tu préfères voir jouer les Verts?
Ah, ok. J'aime bien le milieu de terrain là, qu'il avait. Ça faisait plusieurs fois qu'il le mettait, c'est-à-dire Gourna, Camara, Neyou.
Ouais.
Après, j'aime bien Mouefek aussi, donc c'est vrai qu'il peut venir remplacer un des trois. Et là, si j'ai bien, j'ai pas vraiment. J'aime bien ça. J'aime bien le 4-3-3. Ouais. Après, là, pourquoi il a fait ça? Je suis d'accord avec toi, Marco. Gourna, c'était le meilleur milieu de terrain. Et après, est-ce que tu pouvais faire ça à Camara? Parce que le pauvre Camara, il a quand même joué ailier droit. Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, il voulait que les Verts passent sur les côtés, vu que les Rémois étaient bien regroupés. Donc, il a demandé à Camara. Donc, c'était hyper. Je pense que, bon, déjà, c'est difficile de le faire sortir, Camara. Il le fait faire tout et n'importe quoi. Il joue latéral, il joue ailier, il joue outil, il joue ça. Et en plus, et derrière, c'est le premier qui sort. Après, Neyou, dans la hiérarchie, doit être au-dessus de Gourna, dans la tête de Puel. C'est vrai que ça se dispute. Hein. Ouais, le 4-4-2, on ne peut pas dire que ça a été vraiment. Ça a apporté un gros plus au niveau offensif, à part en fin de match, où là, on a eu l'impression que les Rémois subissaient quand même.
D'accord. Après, en conférence d'après-match, Puel a déploré le fait d'avoir encore concédé un but sur coup de pied arrêté. Aussi, il a pointé du doigt l'inefficacité offensive. Il a d'ailleurs adressé une petite pique à ses attaquants, en déclarant, je cite, « Nous n'avons pas de marge avec des buteurs et des gestes justes qui permettent de soulager l'équipe. » Alors, à propos d'animation offensive, j'aimerais qu'on revienne sur la prestation de deux joueurs. Alors, le premier d'entre eux, c'est Anthony Modeste, qui est toujours à la recherche de son premier but et qui a été remplacé en seconde mi-temps par Abi, qui, comme à Nice, a trouvé, lui, l'ouverture. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de son match?
Bah, il n'a pas été trop servi, déjà, sur… Pendant tout son temps de jeu, sauf en début de rencontre, comme je l'ai dit tout à l'heure. mais il n'a pas eu trop de ballons. J'ai trouvé super assez pâteau, quoi.
Ouais.
Difficile à bouger.
Ouais, il n'est pas rapide. On s'est rendu compte que il n'est pas rapide, ce joueur, mais bon, évidemment, il est un peu, commence à avoir un peu d'âge. Mais par contre, quand il est dos au but, il arrive quand même bien à garder le ballon et à le transmettre dans des bonnes conditions. Et ça, on n'avait pas forcément de joueurs comme ça auparavant.
Ben ouais, mais c'est un point de fixation. Il faut jouer avec, quoi. Il faut quelqu'un qui tourne autour. C'est pour ça que quand vous dites 4-3-3 au début de rencontre, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je vois pas le 4-3-3, ce n'est pas comme ça que je l'envisage. Hein.
Alors, on a commencé comment, ton avis ?
Ah bah avec un seul, avec une pointe.
Oui, donc c'est un 4-3-3 qui bouge en 4-1-4-1 comme la dernière fois à Rennes.
Hein. Ouais.
C'est ce que je disais l'autre fois avec Gourdin Sentinelle et puis un joueur devant.
Ouais, parce que Kazri était vachement reculé et Bonga aussi par rapport à la ligne de Modeste. Hein.
Ouais. C'est
donc,
ça.
Il faudrait quelqu'un qui, comme à l'époque d'Aloisio. Aloisio qui a amené des défenseurs sur lui, hein, vu sa prestance. Et il pouvait donc glisser sur la gauche ou sur la droite, quelqu'un qui gravite autour. Et ça serait bien, ça serait intéressant.
Ouais. À partir de la demi-heure de jeu, on a joué avec deux attaquants
qui
tourne autour. Voilà, mais...
Non, il ne tournait pas autour. Là. Bouanga était beaucoup trop loin.
Ouais,
après, c'est vrai, Modeste, il a fait pas mal d'appels. Moi, je suis d'accord avec toi, Olivier. Il est précieux dos au but, mais malheureusement, la première occasion, hein, il est bien lancé par Debuchy, on en a parlé tout à l'heure. Il se fait rattraper alors qu'il avait un mètre d'avance. Et puis après, il se procure pas vraiment d'occasion. S'il fait une reprise à un moment donné sur un centre de Bonga en deuxième mi-temps. Mais bon, malheureusement, il est toujours à la recherche de son premier but. Et le deuxième joueur sur lequel j'aimerais vous entendre, c'est bien sûr justement Bonga, qui, après avoir été l'homme du match à Rennes, a raté l'immanquable dans les dernières secondes.
Ouais, moi, j'ai déjà dit hein, que je m'étais trompé le concernant.
Ça lui arrive trop souvent.
Hein. De se tromper. non, mais ouais, il est retombé dans ses travers. Et c'est dommage. Parce
ouais,
que...
Pour moi, il a jamais retrouvé quoi que ce soit. Hein. Mais il nous coûte des points cette saison, Bonga. Hein, vraiment. Ça fait... Les matchs se répètent et déjà, il est toujours titulaire. C'est lui qui a le plus de temps de jeu et il fait pas la différence. Alors oui, là, c'est encore un gros raté. Mais une fois de plus, quoi.
Une fois c'est de incroyable. Plus.
Ouais.
Tu vois, c'est juste un déclic, ça pourrait être la confiance, parce que c'est pas son niveau, ce joueur. Il a marqué plus de 10 buts par saison assez régulièrement, et là, bah, il est au fond du trou. Donc, tu te dis qu'un but, ça peut le remettre sur la bonne voie. C'est ce que je disais la dernière fois. Et après, bon, bah, vraisemblablement, c'est pas le cas.
Ouais. En plus, qu'on évoque les cas individuels, donc quels sont les joueurs qui vous ont plu et en dehors de ceux dont on vient de parler, lesquels en revanche vous ont plutôt déçu ?
De mon côté, j'ai bien aimé Cissé, j'ai bien aimé Gourna en première mi-temps,
ouais.
Et j'ai été déçu par Kazri et par Debuchy.
Ah bon ? Pas moi, Debuchy, au contraire. J'ai trouvé comme d'habitude plutôt combatif et puis il a pas mal pressé.
Ah mais
puis,
pour être combatif, il est combatif, mais.
Ah mais après, il prête main forte
offensivement. T'as vu comme il s'est jeté à un moment là. Non mais.
Ah mais après offensivement, il prête main forte en deuxième mi-temps aussi.
Non mais voilà. Non mais c'est pas juste par rapport à d'habitude, mais tu vois l'action dont je parle là, quand le Rémois il déborde, il vient tacler comme un fou furieux. Et ça a failli coûter un but.
D'accord.
Tu vois ou pas ? Non, vous voyez pas l'action dont je parle. C'est Debuchy qui va attaquer dans les publicités. Il finit dans les publicités et l'autre joueur a juste crocheté. C'est juste la reprise de volée acrobatique. Mais non, forcément, Eric, tu ne l'as pas vu. Ça te dit quelque chose,
Marco ? Si, j'ai vu le match. Ah,
tu l'as vu, ok. Ouais. Bah, juste avant cette retournée acrobatique, Debuchy se fait embarquer, mais comme un gamin. Bon, bref.
Ouais. Mais d'accord. C'est lui qui a à l'origine de l'égalisation. Hein.
Oui.
C'est le fait de toujours être dans, dans la surface de réparation adverse, lorsqu'on attaque, il presse quand même. Et ça a failli payer, je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, vers la 70e minute de jeu. Là, ouais. 70e minute de jeu, c'est passé pas loin à côté du but rémois. Mais il est toujours présent offensivement. C'est vrai que défensivement, il peut être un peu à la rue, mais il apporte quand même énormément. Donc, moi aussi, je suis surpris de le mettre dans les flops, quoi. Moi, je reviens sur mes joueurs que j'ai bien aimés. Effectivement, Gourna, hein, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, pardon. Ouais. Et Moukoudi. Moi, je trouve que Moukoudi, il a fait un très bon match. Et pareil, sur l'égalisation, c'est lui qui frappe au but, c'est contré, c'est Abi qui prolonge le ballon au fond des filets. Ouais. Il est quand même dans les bons coups et défensivement, il a fait peu d'erreurs, si ce n'est peut-être le corner sur lequel on s'incline à la 72e minute de jeu.
D'accord, et puis niveau satisfaction.
Si tu veux dire point de vue flop, parce que là, je dis les...
Point de vue flop, pardon.
On va sortir Bouanga. Et puis Moulin qui se fait lober alors qu'il est à 2 mètres devant sa ligne. Je trouve ça assez gros quand même. Même si ça va vite. Hein.
Sur le but.
Ouais. On ne doit pas se faire lober à 2 mètres de sa ligne de but. Quoi.
C'est trop dur.
C'est Abi qui n'est pas au marquage, c'est ça hein.
Ouais, c'est Abi qui n'est pas au marquage. Oui, Abi aussi. Abi qui c'est aussi un flop parce que à part son but. L'erreur de marquage sur le corner, les contrôles qui ne sont pas faits correctement, la conduite de balle qui est pas précise, c'est beaucoup trop brouillon pour ce niveau de Ligue 1.
Ouais, je suis d'accord. Hein. Heureusement qu'il marque parce que sinon. Mais en même temps, par contre, au niveau du placement et du sang-froid devant le but, il est pas mal, hein, par contre. La décontraction, tu vois, parce qu'a priori, il faut quand même. On l'a bien vu avec Bouanga, c'est pas gagné d'avance. Et en fait, ça fait plusieurs fois qu'il est au bon endroit, tu vois, début un peu de renard des surfaces, là. Ouais. Ben, ça fait plusieurs fois qu'il est au bon endroit et il n'y a pas de secret. Hein, quand... Bon, il a un peu de temps de jeu, c'est vrai, mais je trouve que c'est quand même c'est de bon augure. Quand justement, quand tu joues contre des équipes comme ça assez regroupées.
Mais sa conduite de balle, c'est
du
niveau national, hein, c'est impressionnant. Hein.
On est d'accord que là, par contre, ouais. Mais bon, voilà, il y a ça. Et puis par contre, on ne peut pas lui enlever que physiquement, il a quand même, c'est lui qui a bougé de Buchy la dernière fois. Bon, pourtant, c'est un beau bébé là. Il est plutôt fin, longiligne, mais j'ai l'impression qu'il est costaud quand même le Charles.
Ouais.
Et vous n'avez pas cité Nordin? Vous avez pensé quoi, son entrée en jeu?
Bah, c'était pas si mal. Hein. C'est...
Il fait un bon centre pour Aouchiche.
Ouais, Aouchiche, j'ai bien aimé son entrée parce que il joue son rôle. Hein. Après, il manque de la force de frappe. Hein. Il manque une tête aussi. Il n'est pas encore affûté, le jeune. Mais pour revenir à Nordin, il fait une belle frappe hein, qui est captée par le portier et moi. Ouais. En deuxième mi-temps, là, je trouve ça assez intéressant. Il peut amener le danger à partir de 20 mètres, lui. Ce que je regrette, c'est qu'il déborde pas assez pour moi. Ça, je l'avais déjà dit dans des émissions précédentes. Sur son couloir, il pourrait davantage. Et lorsqu'il a l'occasion, et il l'a fait là, une ou deux fois, et ses centres ne sont pas beaux. Quoi. Quand tu vois la qualité des centres de Trauco sur son côté gauche et que tu vois Nordin de côté droit, tu vois la différence.
Ouais. Vous voyez autre chose à rajouter sur cette rencontre?
Ouais, est-ce que c'est pas un peu. Comment vaincre le signe indien à domicile, quoi? Est-ce que moi j'aurais rajouté quelle solution vous proposez pour que les matchs à Geoffroy Guichard se déroulent un peu mieux? Parce que là, on a un ratio qui est vraiment minable, quoi.
On a 3 victoires en 13 matchs. C'est incroyable.
Faudrait attirer le bloc de l'équipe adverse, les attirer le plus dans son propre camp et puis fonctionner en contre-attaque, comme on l'a fait face à Lorient lors des premières journées et face à Strasbourg. Hein. C'est comme ça qu'on l'a emporté. Hein. Regardez, souvenez-vous du but rapide d'Amouma sur un service de Nordin qui avait été servi par
Moulin.
Par Moulin, ouais. C'était simplement une contre-attaque. Donc, peut-être subir un petit peu, subir le jeu adverse à domicile et sans prendre de but et pouvoir aller vite de l'avant, puisque c'est là qu'on est fort. Pouvoir contre-attaquer rapidement. Voilà, ça, c'est une des solutions que je peux voir.
C'est vrai qu'on a pas mal de difficultés à contourner les blocs. Et puis Lorient, je pense justement, ils vont jouer pareil. Hein. J'ai vu le match qu'ils ont livré contre les Lillois. Ils ont joué à 5 derrière, en 5-4-1. Ils ont bétonné. Bon, ils ont explosé parce que c'était Lille en face. Mais bon, contre ces formations-là, ça c'est compliqué hein, de jouer.
Et les Lillois, comment ils ont fait? Alors, ils ont marqué sur coup de pied arrêté. Tu vois, la solution, ça peut être aussi de... Bon, là, on marque sur coup de pied arrêté, enfin, si on peut dire. Mais la solution, tu vois, ils ont débloqué sur un coup franc direct, les Lillois. Que moi, Amouma a pu faire aussi.
Ouais, le coup franc, c'est le troisième but hein, de Lille.
Oui.
Il marque d'abord sur un tir contré, après une frappe de loin.
Ouais. Et alors, ils s'y sont pris comment pour contourner le bloc, les Lillois?
Bah, c'est après, il y a tellement de qualité en face. Il y avait trois classes d'écart hein, entre Lorient qui est barragiste et puis le leader lillois. Après, ça n'a pas duré longtemps, hein, mais bon, ils avaient beau mettre en place un système au départ. Après, ouais, avec les joueurs qu'ils ont.
Ouais, après, c'est surprenant parce que je te disais, j'ai vu le match de Ligue des Champions et ils ont été, ils se sont fait promener par l'Ajax. Voilà. Donc, c'est bizarre c'est bien, ça montre bien l'écart de niveau qu'il y a entre la Ligue 1 et puis le niveau Ligue des Champions.
C'est sûr. Bon, ben, on clôt le ASS Reims. Un deuxième titre musical, Marco?
Alors, le deuxième titre musical, ça sera un groupe Pono. Et donc, c'est la page Haute-Loire qui viendra juste après. Ça sera Gravity Falls avec Mind Palace.
To walk and I have no trace, room to room, one
Le quatuor altiligérien Gravity Fels annonce la page haute loire.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Tout de suite, voici la page haute loire.
Dimanche, lors des 32e de finale de la Coupe de France, le Puy Foot a disposé de Chamalières à nouveau au tir au but à l'issue d'un match sans but. Le futur adversaire des Poneaux sera Lorient. Voilà. Ce fut loin d'être un match haletant, voire même très haché, avec beaucoup d'imprécisions auxquelles on a pu assister. Et Eric était présent, hein, quand je dis que c'était le reporter qui est toujours sur place. Il va essayer d'étayer ce que je viens de dire. Et c'était assez compliqué de jouer au foot, d'assister à un beau match de foot. Hein. Et c'est sur les tirs au but que l'essentiel est fait, puisque la qualification... Donc, les Poneaux ont, et la qualification est acquise suite à un tir au but, un sans faute pour les tirs au but Poneaux, hein, 5 buts à 4. Il a fallu une transversale d'un Chamaliérois. Et voilà, prochain tour, ça sera donc face à Lorient. Ça sera le 6 ou 7 mars. Voilà, donc super nouvelle pour cette équipe Ponote qui accède. Pour la première fois depuis 1975 au 16e de finale de la Coupe de France.
Ouais, c'était pas un grand match, mais bon, c'était le premier auquel j'assistais depuis le Saint-Étienne-Nice de la mi-octobre. Autant vous dire que ça faisait un bail. Et les débats étaient plutôt équilibrés, aucun but de marqué, puis très peu d'occasions. À noter que les Poneaux ont perdu 3 joueurs sur des blessures musculaires avant même l'heure de jeu. Et donc les deux équipes, comme tu l'as dit, c'était qualifiées au tour précédent. À l'issue des tirs au but, ils sont départagés de la même manière. Et Chamalières a fait entrer, juste avant le coup de sifflet final, un joueur. Alors, j'en ai déduit que c'était un spécialiste des pénalties. Et en fait, c'est lui qui manquait en expédiant son ballon sur la barre. Et en même temps, du coup, les Poneaux en 16e de finale. Ouais, le précédent, tu viens de l'évoquer, c'était face à l'ASS hein, en 1975. Les Verts avaient écrasé les Poneaux 6-0 à Geoffroy Guichard, puis l'avaient emporté au retour au Stade Lafayette 2-1 grâce à un doublé d'Hervé Révelli. C'était la veille de ma naissance.
Ah oui. Ça remonte, en effet.
Je te remercie. À l'entre-deux-guerres.
Ah ouais, non, là, le petit, il pouvait pas lutter à ce moment-là, je pense.
Ouais, là, ce sera la même chose.
Après, ça s'est équilibré.
Ça risque d'être très compliqué contre Lorient, mais bon.
On va beaucoup parler de Lorient hein, maintenant, ouais. dans cette fin d'émission. Hein, du coup, c'est quand même... un coup du sort qui fait que le prochain adversaire de Saint-Étienne sera aussi le prochain adversaire du Puy-Foot. On va s'intéresser à Lorient.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda.
Et comme on va s'intéresser à Lorient, on va trouver un match historique dans quelques instants. On s'intéresse aussi à Lorient en musique. Je vous laisse écouter quelques instants l'hymne officiel du FC Lorient.
Debout Lorient, chante Lorient, tu mousses toi à quel moment, tout en toi. À...
Voilà, Debout Lorient, c'est un titre signé Soldat Louis, qu'on connaît dans un style un petit peu analogue, mais dans un autre registre au niveau des paroles, on va dire. Le match historique que j'ai choisi par rapport à Lorient, donc le challenge, c'était de trouver un match avec un minimum d'intérêt entre Lorient et l'AS Saint-Étienne qui se jouait en Bretagne. Et je ne suis pas remonté très loin parce que ce n'est pas un club qui a connu l'élite de manière très ancienne. Je suis remonté au 23 août 2015. Alors, ce n'est pas une grosse victoire côté stéphanois. Ils vont s'imposer simplement 1-0. Et en plus, sur un but de Romain Amouma à la 87e minute. C'est tout le mal qu'on souhaite aux stéphanois hein, dimanche prochain. On serait bien content qu'ils ramènent une victoire du moustoir. Alors, il y a quand même une petite particularité dans ce match, messieurs. Il y a un joueur stéphanois qui portait les couleurs lorientaises lors de ce match. Est-ce que vous pouvez me donner son nom ?
Au cœur ?
Non.
Un ancien joueur stéphanois ?
Ouais, un joueur stéphanois.
Ah, mais actuel ? Monet Paquet ?
Non. Bien essayé. C'est vrai que Monet Paquet, l'année d'avant, était à Lorient. Il s'agit de... Et je suis sûr qu'Eric va le trouver.
Bah, je ne sais pas, un indice
Oui, on a beaucoup parlé de lui.
Bouanga.
Oui, très bien. Bouanga était rentré. Bien vu, Marco. Bravo. Il était rentré à la troisième minute de jeu, donc sur une blessure, certainement. Et donc, ce qui permet de se rendre compte que c'est un joueur qui est dans le circuit depuis pas mal de temps. On a l'impression que c'est encore un jeune qui va éclore, alors qu'en fait, il est là en Ligue 1 depuis assez longtemps. Et c'est un peu même inquiétant parce que peut-être qu'il a connu son âge d'or et qu'il est en train de, j'espère pas, hein, qu'il est en train de péricliter le Gabonais. Il faut dire qu'il est un peu au Gabonais absent en ce moment. Hein.
Oh, joli.
Alors,
ça va être le titre, ça.
j'ai rappelé donc, de bons souvenirs du côté de Lorient. Mais il va falloir dimanche y aller. Et c'est toi, Eric, qui va nous présenter l'agenda.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda.
Alors dimanche à 15h, on se déplacera donc à Lorient pour affronter le barragiste qui depuis la fin janvier est néanmoins en net regain de forme. Les Merlus ont enchaîné 4 victoires et 2 nuls avant de voir leur belle série s'interrompre ce week-end. Comme je l'ai dit, ils ont été largement battus par Lille à domicile, avec un Christophe Pélissier qui a pas mal bétonné en laissant le seul Mofi en pointe. Donc l'équipe qui n'a pas résisté par rapport à la qualité de l'adversaire, le leader, l'équipe de Christophe Galtier. Un élément très important à prendre en compte, Lorient jouera ce mercredi à 19h son match à retard à Nîmes. Un match qui vaudra très cher, hein, car les Gardois sont premiers relégables avec 2 points de retard sur Lorient. Donc les Merlus risquent de laisser pas mal de force dans cette opposition pour le maintien. Donc à nous d'en profiter dimanche et de rééditer la performance du match aller. C'était le premier match de la saison pour les Verts qui n'avaient pas pu jouer avant au Vélodrome. On était en tribune Henri Point. C'était une autre époque.
Exactement. Bah, c'est vrai que c'est une info qui est hyper importante pour les Stéphanois, ouais. En effet.
Je pense qu'ils vont laisser pas mal de plumes dans ce match qui est très très important pour eux.
Bah oui, puisque les Nîmois, c'est un peu leur dernière chance.
Ouais.
Donc ça va. Ça va être chaud du côté de Nîmes. Ouais. Et après, j'ai regardé vite fait le match vraiment d'un œil. Et c'est vrai que cette équipe de Lorient nous avait habitués à être joueuse et là, plus du tout. Avec un joueur qui, pour moi, quand même, n'est plus au même niveau qu'il l'était, c'est Lemoine. Je ne sais pas s'il joue tous les matchs, mais bon, il commence quand même à baisser en termes d'intensité. C'était ce qui faisait la force de son jeu. Lemoine, c'était l'intensité qu'il mettait au milieu de terrain. Et là, c'est en train de baisser un petit peu. Voilà, donc, encore une fois, ouais, c'est à la portée. Mais attention, hein, parce qu'une défaite serait quand même très inquiétante.
Ça ferait des ordres.
Ouais, après, Lorient, à part ce match-là de la 26e journée où ils se sont inclinés, ils étaient plutôt dans une bonne forme avec un changement tactique. C'est qu'ils étaient repassés avec une défense à 3. Et alors qu'avant, c'est-à-dire en 2020, ils étaient plus sur une défense à 4. Et là, ils ont bu la tasse plusieurs fois, hein, puisqu'ils prennent quand même des cartons assez souvent, Lorient. Et depuis ce changement de tactique, c'est plutôt bénéfique. Et il va falloir donc se méfier de cette tactique des Merlus dimanche prochain et peut-être en profiter, quoi, sachant qu'ils défendent qu'à 3, peut-être... insister sur les positions offensives de nos joueurs et pas être trop reculé.
On passe un titre musical ?
Ouais, ça sera la scène stéphanoise, hein, parce que dans l'émission Coup de tête, je passe pas mal de choses. Donc à chaque fois, une équipe adverse, hein, la ville, à chaque fois qu'on joue à domicile, je crois que je vais me faire un petit choix de groupe stéphanois, parce qu'il y en a. La nouvelle scène, elle est riche, et notamment, je vous l'ai déjà passé, c'est le nouvel espoir du rap stéphanois, c'est Zedjun Pavarotti avec La La Land en acoustique.
Donne-moi la légende, donne-moi tout ce que je veux. Donne, je suis dans le couloir, au fond c'est que du feu. Démarre à ma table, des gens qui vivent heureux. J'achète v'là les merdes, car je connais leurs yeux. Je suis sur un ballon, j'aime jeter les glaçons sur les gens du club, car ils ont passé l'heure. Tant à m'ignorer, je me suis amélioré. Je voulais être comme eux, maintenant je veux les acheter. J'suis dans les fleurs, je pensais être si bien, mais maintenant c'est froid. Je sens plus la cigarette au bout des doigts. Je veux qu'un silencieux, pas de cinéma. Pas la la langue, la 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 la. Pas la la langue, on est seul au monde, perdu dans un idéal. Pas la la langue, moi je veux rien qui fait les rêves, mais je mourrais si je l'ai pas. Mon la la langue. La 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 la, pas la la land. On est seul au monde, perdu dans un idéal. Pas la la land, moi je veux rien qui fait les rêves, mais je mourrais si je l'ai pas. Mon la la land, je suis le fourmilier. Les temps ne veulent qu'un ventre. J'ai de la place au max, gourmand comme pétrolier. Ce qu'il se faudrait signer là où y'a pas la marge. Les très chouettes, le bateau, mais maintenant ça dégage. Yeah. Bigger than moi, y'a pas une heure. J'ai des étages et la lumière. Sucer Cobra dans la Viper. Ouh, c'est pourtant dingue ce que rouler. Je veux des requins dans la cour et des dauphins sur le palier. Des éléphants dans ma tour d'ivoire. Y'aura des loups dans la forêt. C'est tellement gris devant le beau miroir. Le grand vautour va l'adorer. Dans le fleuve, je pensais être si bien, mais maintenant c'est froid. Je sens plus la cigarette au bout des doigts. Je veux qu'un silencieux, pas de cinéma. Pas de la la land, la 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 la. Pas de la la land, on est seul au monde, perdu dans un idéal. Pas de la la land, moi je veux rien qui fait les rêves, mais je mourrais si je l'ai pas. Mon la la land. La 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 la, pas la la land. On est seul au monde, perdu dans un idéal. Pas la la land, moi je veux rien qui fait les rêves, mais je mourrais si je l'ai pas. Mon la la land, je suis dans les fleurs. Je pensais être si bien, mais maintenant c'est froid. Je sens plus la cigarette au bout des doigts. Je veux qu'un silencieux, pas de cinéma. Pas la la la.
Moi, je veux rien qui fait des rêves, mais je mourrais si je l'ai pas. Mon La La Land, l'espoir stéphanois, Zedjun Pavarotti.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur.
Coup de cœur pour l'interview donnée cette semaine à la Tribune Le Progrès par Christophe Galtier, qui a évoqué ses souvenirs européens. Ça m'a rappelé tous les bons moments que j'ai vécu grâce à lui dans l'intimité des Verts. Coup de cœur pour la mobilisation des supporters qui, à l'appel des Magic fans, sont regroupés samedi matin devant le stade pour l'arrivée du bus de l'équipe. C'était festif, coloré, ça fait du bien de retrouver ça. D'après leur déclaration, Claude Puel et ses joueurs ont aussi apprécié. Coup de cœur pour Charles Abbi qui a inscrit son premier but à Geoffroy Guichard. Ses 3 buts marqués cette saison, dont 2 face à Reims, l'ont été lorsqu'il est entré en jeu. Il nous aura emporté 3 points. Et enfin, coup de cœur pour l'Épop et Verte, une soirée qui s'est déroulée au Fil de Saint-Étienne en octobre dernier, où différents groupes musicaux locaux, dont Zedjun Pavarotti, se sont succédés sur scène. Il est possible de la revivre sur YouTube. Un documentaire est également en préparation. Le lien est évident avec notre émission Rock'n'Foot.
Pareil, je m'associe à ce que tu dis sur l'accueil des joueurs et des images qu'on n'avait pas vues depuis longtemps avec des fumis, et ça fait plaisir. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu lors du match entre Lorient et Lille, il y a eu un shoot à la Olivier Thom, vous savez, le double shoot des jumeaux. Bah, après, ça a été contré et c'est rentré, ça a été plutôt un CSC, mais j'ai trouvé ça quand même assez rigolo. Voilà pour mes coups de cœur.
Alors, pour ma part, Alevina, notre ancien Pono, oui, qui a marqué pour Clermont qui monte à la deuxième place, donc la place de dauphin pour les Auvergnats dans ce championnat de Ligue 2. Et franchement, ils ne sont pas loin de faire un super coup hein, et de monter en Ligue 1. Je le souhaite fortement. J'ai bien aimé aussi West Ham, qui est quatrième de championnat de Première Ligue. Et surtout, moi, j'ai un gros coup de cœur pour un film, puisqu'on est dans l'émission Coup de tête, hein, qui vient du film de Jean-Jacques Hano. J'ai vu un film qui est passé inaperçu, qui est sur le monde du foot. Ça s'appelle Le défi du champion. C'est un film italien qui s'appelle Il Campione. En italien, c'est l'histoire d'un jeune génie du foot à qui on veut faire passer son bac. Et ça dénonce, en fin de compte, le monde du football comme le faisait Jean-Jacques Hano dans Coup de tête. Et j'étais agréablement surpris. Il est sorti au mois d'août 2020 au cinéma en France, mais comme on n'a pas le droit d'y aller. Donc, c'est passé inaperçu, mais franchement, cher auditeur, je vous le conseille fortement.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête.
Coup de tête pour la nouvelle contre-performance à domicile face à Reims. 3 victoires en 13 matchs dans le chaudron. Incroyable, mais malheureusement vrai. Coup de tête par rapport à notre incapacité à enchaîner des victoires. On a gagné 4 fois depuis le début de la saison à l'extérieur. Et à chaque fois, on a fait un nul lors du match d'après. 2 fois contre Nantes, contre Nîmes et donc contre Reims. Et enfin, coup de tête pour Denis Bouanga qui a loupé l'immanquable dans les dernières secondes. Avec 2 points de plus, on serait 12e au classement.
De mon côté, je ne sais pas si vous êtes tombé dessus, mais on a pu entendre « You will never walk alone », l'hymne de Liverpool, à la télévision et de manière très répétitive. C'est tout simplement le site de Paris, Parion Sport, qui s'est acheté ce titre-là. Je trouve que c'est un contre-emploi total. Et c'est vrai que bah, le coup de business a gagné, mais là, c'est quand même le coup de grâce. Avec un titre qui colle au foot populaire. Ouais. C'est vraiment un coup de grâce.
Olivier, c'était mon coup de tête également. Et il faut signaler, on avait passé le titre au match aller Reims-Saint-Étienne. C'est l'époque où l'auteur, le chanteur du You Will Never Walk Alone était décédé. Et je me demande s'il n'y a pas une cause de lien. Cause à effet entre le décès de ce chanteur.
Oui, ah oui, ça certainement, puisque les ayants droit sont peut-être beaucoup moins regardants que lui-même. Ouais. Et vendent à qui veut bien les droits sur cette chanson qui est magnifique, hein, ça fait toujours plaisir de l'entendre, mais avec le Parion Sport derrière, c'est bizarre.
Ouais. Cabaye qui prend sa retraite.
Oui.
Ça, c'est un de mes coups de tête. Les matchs à 13h qui sont horribles, horribles. Alors déjà le dimanche, mais alors le samedi à 13h, c'est n'importe quoi. Et le derby milanais, ça faisait longtemps que le derby milanais, c'était un derby au sommet entre le premier et le deuxième. Hein. Bon, c'est les intéristes qui l'ont emporté 3-0. Mais bon, quand tu vois que ces deux clubs sont tout en haut et qu'il n'y a personne dans le stade de San Siro, c'est d'une tristesse, c'est assez horrible. Franchement, en tant que supporter de foot, assister à ce genre de choses, alors que ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas au sommet du calcio, ces deux équipes milanaises, c'est assez terrible.
Eh bien voilà, je crois qu'on a fait le tour.
Ouais. On se retrouve la semaine prochaine pour décortiquer et analyser le match à Lorient, au stade du Moustoir. Ça sera donc dimanche à 15h. Et ben, un gros allez les Verts pour l'emporter en terre bretonne, comme on l'a fait la semaine précédente.
Bonne semaine,
allez les Verts.